Chers amis des cellules, bonjour. Voici le dernier enseignement enregistré avant les vacances scolaires. En effet, la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour notre cellule géante, mercredi 28 juin, à l'église Notre-Dame du Travail. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur l'évangile que nous entendrons dimanche prochain, le 25 juin, 12e dimanche du temps ordinaire. Ce sera un extrait de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Quelques versets ont été omis par rapport à l'évangile de dimanche dernier. Jésus continuait à donner des consignes pour la mission, il les invitait à expérimenter la providence. Il annonçait que leur témoignage sera mis à l'épreuve par une opposition, mais qu'ils recevraient le secours de l'Esprit-Saint pour savoir quoi dire le moment venu, et que ce témoignage sera une occasion de salut pour les persévérants. Voilà, la victoire du Fils de l'homme ne fait pas de doute, a-t-il annoncé. Il les prévient que, comme lui connaît l'opposition, eux aussi la connaîtront. L'extrait que nous allons entendre prend à bras le corps la question de la peur, de la crainte que peut susciter l'opposition à ce témoignage. Mais écoutons le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. De moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Fin de la lecture. Jésus annonce donc que le témoignage des apôtres, le témoignage des disciples, envoyés comme ouvriers pour la moisson de Dieu, rencontrera une opposition. Le témoignage, c'est de faire connaître à tous la personne de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il enseigne, comment il vit, de faire connaître à tous ceux qu'ils rencontreront ce que Jésus leur a donné d'expérimenter, en particulier par tout ce temps qu'il a passé avec eux. Voilà le témoignage attendu de leur part. L'opposition est celle des autorités civiles et religieuses, à l'époque des apôtres, donc le pouvoir romain, le pouvoir du Sanhédrin, le grand conseil juif, l'opposition des scribes et des pharisiens, mais même l'opposition de leurs plus proches, des gens de leur famille. Et comment se manifestera cette opposition? On pourrait la résumer ainsi. Ils tâcheront de dissuader l'âme en attaquant le corps. Ils tâcheront de dissuader l'âme en attaquant le corps. Dissuader l'âme, ça veut dire dissuader l'élan apostolique, ça veut dire dissuader cet élan où on se dit « ce que j'ai rencontré de Jésus, ce que j'ai rencontré du Verbe de Dieu, ce que j'ai rencontré de la vérité, je ne peux pas le garder pour moi, il faut que je le partage. » Dissuader l'âme, c'est tuer cet élan, c'est l'assourdir, c'est l'étouffer. Attaquer le corps, eh bien nous voyons ce que c'est les persécutions, c'est le fait de frapper quelqu'un, de le mettre en prison, de le flageller, de le crucifier, ou de le mettre au banc de la société. Ces attaques, ce dénigrement provoquent une inquiétude, c'est-à-dire, mais comment vais-je en sortir? Dans quel état vais-je en sortir? Je vais finir en miettes, je vais finir blessé, écrasé, rejeté de tous. il est facile de se dire faisons comme tout le monde, passons inaperçu, plutôt que d'être témoin et d'être rejeté ou vilipendé par tous. Le commentaire de Jésus va alors insister sur deux points. La gravité de la mort de l'âme d'une part, et le fait que le Père prend soin de nous, que nous valons cher à ses yeux d'autre part. Commençons par ce deuxième point. C'est ce que l'on tire de la comparaison avec les moineaux. Il prend soin, Dieu prend soin du sort des moineaux. Pas un seul ne tombe à terre sans que le Père ne le veuille, ne soit au courant. Et vous valez beaucoup plus que les moineaux. Donc vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc vous vous demandez, mais comment vous en sortirez ? Rassurez-vous, le Père des cieux compte jusqu'à chacun de vos cheveux, et vous êtes plus cher à son cœur que le dernier des moineaux, dont il prend pourtant soin. L'auditeur de l'Évangile reçoit toujours l'Évangile après la résurrection de Jésus. Et donc il sait que le Père des cieux a pris soin de son envoyé, de son élu Jésus. Il a pris soin de lui alors même qu'il a été crucifié, il est revenu à la vie. Eh bien, de même, les envoyés de Jésus, le Père prendra soin d'eux, et si leur vie est attaquée, si leur corps est mis à mal, il en prendra soin comme il a pris soin du corps de Jésus par la résurrection. Voilà la certitude qui est avancée, voilà la certitude sur laquelle peut s'appuyer l'auditeur de l'Évangile, puisqu'il connaît la résurrection de Jésus, lui qui a donné le témoignage de sa vie. Jésus lui-même est présenté comme le garant de notre restauration. « Je me déclarerai pour celui qui s'est déclaré pour moi devant les hommes. Je me déclarerai pour lui devant le Père. » Jésus est présenté comme notre avocat, celui qui fera valoir notre droit devant Dieu. Il y a donc une assurance qui est avancée. Ce qui m'arrive dans mon témoignage, le Père le voit jusqu'au dernier de mes cheveux. Je vaux cher à ses yeux. Il a ressuscité Jésus son envoyé. Et Jésus lui-même sera mon défenseur pour faire valoir mon droit à la vie devant le Père. Je n'ai donc pas crainte à avoir d'être réduit à néant suite au témoignage rendu. Mais regardons alors le point de la question de tuer l'âme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que tuer l'âme ? L'âme est une réalité spirituelle immortelle. Donc une fois qu'elle a été créée, elle ne retourne pas au néant. La mort de l'âme n'est donc pas un anéantissement. Ce n'est pas comme le corps matériel qui, lui, retombe en poussière, soumis à la corruption qu'il est. La mort de l'âme n'est pas un anéantissement. La mort de l'âme est la perte de sa capacité à accomplir sa vocation. La vocation d'une âme, c'est d'aimer comme le Christ aime, de découvrir même qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La mort de l'âme, c'est le refus de vivre cette vocation, c'est l'abandon de cette vocation. Les signes d'une âme morte, c'est une âme qui ne sait plus aimer, une âme qui n'aime plus. Son sentiment habituel, plus que la haine d'ailleurs, c'est l'indifférence. À la haine, à l'envie, au dégoût, succède finalement l'indifférence. C'est une âme qui ne sait plus s'engager. Elle ne sait plus se donner. Elle ne veut plus donner de son temps, de son énergie. C'est une âme qui n'espère plus. Elle ne pense plus pouvoir être réjouie de la relation. Elle ne pense plus pouvoir contempler de la beauté dans la relation. Elle ne pense plus pouvoir apporter de la beauté dans la relation. C'est une âme qui ne sait plus vraiment qui elle est, quelle est son identité. Elle ne croit plus en sa vocation, elle ne croit plus qu'elle a été créée par amour et pour l'amour et qu'elle en est capable avec la grâce de Dieu. Ne croyant plus au bonheur dans la relation à Dieu et au prochain, c'est une âme qui va passer son temps à essayer de se divertir, c'est-à-dire de se donner son propre bonheur à travers les artifices qu'elle maîtrise. Elle se noie dans la technique, c'est le temps passé devant des écrans à suivre des choses qui en fait ne nous nourrissent pas, mais on en est comme hypnotisé et ça fait passer le temps. C'est une âme qui va chercher son soulagement dans la sensualité qu'elle extorque à son corps au lieu de la vivre dans une relation, à travers la pornographie, à travers l'auto-érotisme, ou à travers la drogue ou l'alcool. Elle ne croit plus à la joie dans la relation à Dieu ou avec l'autre et donc cherche à s'enfuir, se réfugier dans une espèce de monde artificiel. La mort de l'âme, c'est l'état de l'âme dans la géhenne, c'est-à-dire la séparation d'avec la communion à l'amour divin, la séparation volontaire et définitive d'avec l'amour divin. Autant la mort de notre corps peut nous être imposée de l'extérieur, autant la mort de notre âme ne peut s'accomplir qu'avec un consentement de notre part. Ainsi, celui qui espère en Dieu ne consent pas à la mort de son âme, ne renonce pas à sa vocation à la communion dans l'amour. Et quand bien même il aurait pu crier comme le Christ « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», celui qui demeure avec cette espérance sera rétabli, comme Jésus a été rétabli. Mais que signifie renier le Christ devant les hommes, puisque Jésus dit « Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Renier le Christ, c'est prétendre ne pas avoir entendu parler de lui, c'est prétendre ne pas le connaître, c'est ne pas connaître ce qu'il demande, c'est ne pas adhérer à ce qu'il dit. Dire « je n'ai pas entendu parler de lui », c'est avoir des zones dans notre vie où nous ne lui accordons aucune place. Et par exemple, dans mon travail, j'estime que l'Évangile n'a pas de place. Quand je suis au travail, tout ce qui concerne ma foi est mis de côté. Dire « je ne connais pas cet homme », ça veut dire avoir des zones de notre vie où effectivement, on a entendu parler de ce qu'il disait, mais on ne lui reconnaît pas autorité sur ce domaine. Pourquoi est-ce que tu interviens, Seigneur, dans ma vie conjugale? Pourquoi est-ce que tu interviens, Seigneur, dans tel domaine? Je ne te reconnais pas autorité là-dedans. Je ne connais pas ce qu'il demande. Ça, c'est notre négligence, justement, être familier de l'Évangile. C'est notre négligence pour essayer de comprendre les passages qui nous apparaissent obscurs, d'aller interroger, d'aller lire, d'aller questionner. Je n'adhère pas à ce qu'il dit, c'est lorsque je connais ce qu'il a dit et je fais le choix de vivre différemment. D'une certaine manière, je dis en fait, ce que tu me demandes n'est pas la vie, ce que tu me demandes en fait est le contraire de ma vie et donc je ne te suivrai pas. Telle tempérance, telle chasteté, telle justice, je ne les vivrai pas. Assurément, l'exigence de Jésus est énorme. Elle peut nous effrayer comme elle effraya les disciples qui demandèrent « Mais Seigneur, qui peut être sauvé ?» Rappelez-vous, Jésus leur dit « À l'homme c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » L'appel au royaume, c'est un appel à vivre comme Jésus, avec sa grâce et sa miséricorde. En entendant ceci, en entendant cet enseignement, comme les apôtres l'ont reçu, souvenons-nous de ce qui est arrivé à Simon-Pierre. Simon-Pierre a été à la fois renégat, mais il a été le renégat qui a accepté la lumière de Dieu sur sa vie, qui a accepté la miséricorde et qui est devenu saint. Ce qui est advenu à Simon-Pierre, apôtre, renégat, restauré comme chef des apôtres et devenu saint, le Seigneur veut que nous le vivions aussi et nous donne la même grâce pour que cela advienne. Ayons confiance, recevons pleinement la vocation que le Seigneur nous donne. Il nous donne la grâce de son Esprit Saint. Je vous souhaite de bons échanges.